Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Six, five, four, three, two, one, zero, zero, zero.
Bonjour à tous. La guerre en Ukraine et les craintes de l'autre côté de la frontière. En Pologne particulièrement, dont l'engagement pour soutenir l'armée ukrainienne ne faiblit pas. À l'intérieur des frontières, c'est l'inquiétude qui domine sur l'extension du conflit. À tel point que des civils suivent désormais des entraînements militaires le week-end après avoir reçu un enseignement intensif de 2 semaines. Cela s'appelle la défense territoriale. Adrien Sarla est allé sonder pendant leurs exercices, ces citoyens inquiets et déterminés.
Commandant, on a un blessé. Il a la jambe droite lacérée. On a besoin d'un médecin.
Tapis dans la forêt, chacun sait ce qu'il a à faire. En quelques gestes efficaces et silencieux, les militaires ont pansé la blessure de leur compagnon inerte et contacté les secours.
On est à 20 mètres de la route principale, vers la gauche, fin de transmission. Le commandant devrait être là dans 2 minutes.
Pour cette fois, il ne s'agit que d'un exercice, mais le corps du soldat gisant au sol et maculé de faux sang donne une toute autre dimension à la scène. Des entraînements en conditions réelles comme celui-ci, Krzysztof en suit tous les mois depuis 4 ans.
Je l'ai fait pour sortir de ma zone de confort et me mettre au défi en temps de paix, pour expérimenter même les conditions les plus difficiles car on est confronté à la fatigue. Parfois on ne dort pas pendant 20 ou 25 heures d'affilée tout en enchaînant les exercices, donc c'est aussi important pour se tester soi-même.
Se tester, mais surtout se préparer à une guerre, aujourd'hui aux portes du pays et qui constitue une menace.
Là, on attend les secours. Les autres s'occupent du blessé et moi, je transmets les coordonnées.
Stanisław s'est grimé le visage de peinture verte et noire pour se confondre avec les fourrés. Le quadragénaire participe à ces exercices depuis 6 ans.
Après 2014, l'équilibre du monde a changé avec le tout début de la guerre en Ukraine. Et j'ai remarqué que la situation devenait de plus en plus dangereuse pour nous. Je me suis dit qu'il valait mieux être prêt en toutes circonstances, car malheureusement, on a une frontière avec la Russie et on risque d'être les prochains à se faire attaquer.
Mais l'archéologue n'a pas eu à interrompre sa thèse en histoire pour recevoir cette formation militaire. Comme 40 000 autres Polonais, il a rejoint les forces de défense territoriale, un nouveau type de service militaire créé en 2016 qui permet de suivre une formation de 2 semaines avant de participer à des entraînements intensifs un week-end par mois. Le lieutenant-colonel Grzegorz Podolszański a noté une augmentation des candidatures pour rejoindre sa brigade depuis le début de la guerre en Ukraine.
Ici, dans la 5e brigade de défense territoriale de Mazovie, on forme 2500 soldats potentiels. Et l'intérêt pour notre formation ne fait qu'augmenter. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, plus de 40 000 citoyens polonais ont reçu une formation aux armes à feu, savent tirer, prodiguer les premiers secours et savent comment se comporter en cas de danger.
Tous ici connaissent bien le terrain, car le recrutement se fait à l'échelle locale. Les soldats habitent, vivent et travaillent dans la région où ils seront potentiellement amenés à servir.
Tireurs, vous êtes prêts ? Attention !
Au fond du terrain vague, une dizaine de soldats s'entraînent au tir avec des fusils. Cette formule d'entraînement le week-end attire toutes sortes de profils et pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils touchent à une arme.
Ici, on a un spectre large de la population locale, des étudiants ou profs en passant par les avocats ou les médecins, et les spécialités sont très variées. Surtout qu'en ce moment, on met l'accent sur le soutien médical, c'est-à-dire les infirmières, les sauveteurs et les docteurs.
À 29 ans, Alexander travaille à l'Institut national de la mémoire, et il manie déjà son fusil avec assurance.
Mon travail dans le civil est relativement tranquille, car je travaille pour une administration d'État. Mais ça fait plus de 4 ans que je participe à cette formation, donc j'ai eu le temps de m'adapter, de développer des compétences, et je me sens comme n'importe quel tireur à présent.
Comme ses camarades d'armes, il préfère ne pas penser à une éventuelle attaque russe sur la Pologne. Mais le jeune homme se dit prêt à donner sa vie pour la patrie, si d'aventure la guerre s'invitait en Europe.
L'Ukraine à nouveau soutenue militairement par les États-Unis et son assistance de 61 milliards de dollars votée au Congrès, alors que 80% des centrales thermiques du pays ont été attaquées par la Russie. Kiev réclame aussi plus d'engagement des Européens. Pour y répondre, l'Allemagne, plus important soutien militaire de l'Ukraine, a annoncé vouloir produire directement sur le sol ukrainien des munitions d'artillerie. À Berlin, les explications de Julien Méchoussi.
Ces dernières semaines, l'Ukraine a signé de nombreux accords bilatéraux de sécurité, entre autres avec la France, le Royaume-Uni, également l'Allemagne. Des accords pensés pour apporter des réponses concrètes aux besoins ukrainiens afin de repousser l'agresseur russe. Parmi ces réponses, le géant allemand de l'armement Rheinmetall a annoncé la construction de plusieurs usines en Ukraine. L'objectif, produire chaque année un nombre à 6 chiffres d'obus de calibre de 155 mm. Pour d'évidentes raisons de sécurité, ni le lieu de ces usines, ni la date du début de construction n'ont été rendues publiques. Elles seront détenues à 51% par Rheinmetall et à 49% par un partenaire ukrainien. Un modèle déjà éprouvé dans une autre co-entreprise où sont réparés des véhicules militaires, étape appelée à précéder une production là aussi sur place. Deuxième soutien financier et militaire derrière les États-Unis avec 41 milliards d'euros depuis les attaques du mois de février 2022. L'Allemagne va donc encore plus loin avec des usines présentes sur le territoire ukrainien. Durement critiqué pour ses hésitations à livrer des chars de combat ou encore des missiles de longue portée, Olaf Scholz ne dévie pas pour autant de sa ligne. Soutien à l'Ukraine, oui, mais sans provoquer directement Vladimir Poutine avec des armes qui pourraient toucher le territoire russe. Pour de nombreux experts et experts militaires allemands, ces annonces et ces actes constituent une réponse aux incertitudes liées aux prochaines élections américaines. Et l'Allemagne ne s'arrête pas là. Elle vient d'annoncer la construction d'une nouvelle usine d'obus, cette fois-ci en Lituanie, pays balte régulièrement menacé par la Russie.
Et le reste de l'Europe en fait-elle assez en termes de livraison de munitions? Pas de l'avis du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui disait, je cite, que sur 1 million d'obus que l'Union européenne nous avait promis, ce n'est pas 50%, mais malheureusement 30% qui ont été livrés. Cette aide, Léonard Vincent, n'est pas seulement une question de volonté politique. Ça ne se décrète pas d'un claquement de doigts. Il faut entièrement réorganiser l'industrie privée et c'est complexe.
Oui, la question qui se pose n'est en effet pas seulement de décider si l'Ukraine mérite de recevoir de l'aide militaire ou non. La question est industrielle. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie de l'armement en Europe, ce n'est pas un ensemble d'équipementiers publics aux ordres des gouvernements qui produiraient suffisamment de munitions pour fournir d'un claquement de doigts tous les alliés ou tous les clients qui le souhaiteraient. C'est un ensemble d'acteurs privés avec des intérêts privés et concurrents et des appétits féroces comme toutes les industries pesant des milliards d'euros. De plus, c'est un ensemble dont l'architecture au sein de l'Union européenne n'a pas été pensée pour faire face à une guerre soudaine et de haute intensité comme celle qui est livrée en Ukraine, mais au contraire pour répondre aux conflits de basse intensité, ce qu'on appelle les conflits asymétriques, essentiellement hors de l'UE. Alors à titre d'exemple, on estime que l'industrie française produisait avant la guerre d'Ukraine 20 000 obus de 150 mm par an. Ça représente 4 jours de combat pour les Ukrainiens, selon le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat.
Et c'est pour ça que l'Union européenne a récemment élaboré en urgence un plan de développement de l'industrie de la défense.
Oui, c'était en mars dernier à Bruxelles. Concrètement, l'objectif de l'UE est de faire en sorte que les Européens soient en mesure d'acquérir la moitié de leurs armes auprès de leur propre industrie d'ici 2030. Il faut en effet savoir que sur les 100 milliards d'euros d'achats d'armement effectués par les 27, de 2022 à mi-2023, 63% l'ont été auprès des États-Unis et 13% de la Corée du Sud. Et ce sont 68% des achats d'armement réalisés dans l'UE au profit de l'Ukraine qui se sont faits ces deux dernières années auprès des fabricants américains. Ce qui est tout de même un problème. Alors il s'agit de fixer des objectifs chiffrés pour changer tout cela, mais aussi d'essayer de tordre le bras des États membres et de leurs champions industriels pour qu'ils mutualisent davantage leurs efforts et qu'ils se livrent moins au jeu de la compétition.
Et comment cela se traduit concrètement ?
D'abord, il y a la question de l'argent. Avec quel argent est-ce qu'on entend faire des investissements dans l'industrie militaire? Alors, plusieurs idées sont sur la table. Les fameuses eurobonds ou bien un emprunt mutuel, mais aussi l'idée d'utiliser les bénéfices générés par les avoirs russes gelés en Europe après l'invasion de l'Ukraine, 90% servant à financer des achats d'armes et les 10% restants servant à renforcer l'industrie de défense ukrainienne. Ensuite, il s'agit de freiner les achats auprès des équipementiers américains et de privilégier et de faire progresser la part du « Made in Europe ». Ensuite, il s'agit d'aider les entreprises privées existantes qui produisent déjà des obus, par exemple, à se réorganiser et augmenter rapidement leur production. L'obstacle principal, là, c'est l'argent, évidemment, mais c'est aussi la réticence des industriels privés à s'engager à tourner à plein régime s'ils n'ont pas de commandes fermes et pérennes. Ce sont quand même, il faut le rappeler, des acteurs privés et donc qui veulent faire du profit.
Merci Léonore Vincent, à très bientôt. Le Portugal s'apprête à célébrer demain les 50 ans de la révolution des œillets et la fin de la dictature. L'occasion de se pencher sur la force de la démocratie, alors que pour la première fois aux dernières législatives de mars dernier, l'extrême droite, via le parti Chega, a fait son retour avec 18% des voix. Premier rempart, l'éducation. Dans les écoles portugaises, on apprend la citoyenneté et la démocratie participative. Exemple à une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne, à Torres Novas. Notre correspondante Marilyn Darcy s'est rendue dans une des premières classes du collège de l'école Miguel Figueiredo.
Comme partout entre deux cours, les élèves se répandent bruyamment dans les couloirs. Dans la classe de citoyenneté et développement de la professeure Alzira Novo, on enseigne la pratique de la démocratie. L'école s'appuie sur le savoir-faire de l'association My Police qui permet aux élèves d'acquérir des notions fondamentales. Il Polali est formateur à My Police.
Le principal objectif de My Police, au-delà de permettre l'apprentissage de la culture démocratique, c'est de faciliter l'action démocratique. Notre association apporte des outils pour que les jeunes puissent développer leur capacité de citoyens et de citoyennes. Mais au lieu d'intervenir de manière globale sur l'ensemble du territoire, nous cherchons à faire de ces jeunes des transformateurs de leur réalité territoriale.
À l'ère digitale et parce que la pédagogie ludique fonctionne bien, le formateur projette sur écran un guide qui permet aux élèves de voir leur progression. Ils sont chargés d'identifier les problèmes au niveau de leur école, de leur ville et des alentours. Après argumentaire, on procède au vote. Dans une seconde phase, les jeunes devront élaborer des solutions. On se dirige vers l'augmentation de la sécurité à un rond-point près de l'école. L'an dernier, les enfants ont suggéré l'installation d'une base de canoës sur la Monda, la rivière qui traverse Torres Novas. Le projet est sur le bureau du maire. Antonio, élève.
Ils nous ont dit à la mairie que c'était réalisable et qu'ils y pensaient depuis longtemps. Alors ils ont approuvé le projet et promis d'avancer. Bon, rien n'a été fait encore, mais on espère que ça avance.
Les élèves découvrent les rouages de la politique locale et au passage, la patience. L'enseignante Alzira Novo.
Ils ont fait un excellent travail au long d'une année avec My Police. Mais pour l'instant, ce n'est pas concrétisé. Il faut aller vite, car ils sont de cette génération de l'immédiat, à portée d'un clic digital. Mais ils sont aussi nettement plus sensibles à ce qui se passe autour d'eux et réfléchissent à comment attirer l'attention sur des problèmes et proposer des solutions pour les résoudre.
Les projets et les solutions seront soumis en assemblée participative le 30 avril en présence des élus et de 400 enfants de l'école. À la mairie de Torres Novas, on s'implique pour la citoyenneté. Elvira Sequeira, la conseillère municipale chargée de ces questions.
Nous participons beaucoup à des projets comme l'Europe pour les citoyens. Mais ici, nous nous focalisons sur le local. Et nous sentions la nécessité de plus de proximité avec les jeunes. Et c'est ce que l'on fait avec My Police. On a des résultats. On a eu 41 propositions et 18 ont été retenues. Elles ont été discutées lors des assemblées des transformateurs sociaux.
Alors que le Portugal va commémorer les 50 ans de sa démocratie le 25 avril prochain, sur fond de montée de l'extrême droite, les jeunes ont acquis une grande maturité. José, 11 ans,
Le 25 avril, c'est la révolution des œillets qui a mis fin à la dictature et a amené la démocratie. Ça va faire 50 ans, je crois bien. Il faut la défendre, la démocratie, parce que les partis d'extrême droite se développent et les gens disent que cette montée en puissance, c'est le début de la dictature.
50 ans de démocratie, 50 assemblées participatives du nord au sud du Portugal, organisées par MyPolis. Il Polali.
50 ans, 50 assemblées, 50 espaces de participation démocratique dans tous les pays, y compris les îles, c'est vraiment un appel à la participation, à l'implication démocratique. La démocratie représentative est fondamentale, mais la participation doit être complémentaire. Il faut que les jeunes et la population agissent, que les gens mettent la main à la pâte dans leur région.
Le message pourrait se résumer ainsi, ne pas s'endormir sur l'acquis, former les jeunes et responsabiliser les élus locaux. Depuis sa création, il y a 4 ans, MyPolis a associé 30 000 élèves qui ont élaboré près de 5 000 propositions.
Musique.
Et on termine en musique avec vous, Vincent Théval, bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous nous faites découvrir une nouvelle pépite de la pop anglaise.
Depuis les années 60 et le triomphe planétaire des Beatles, les critiques, comme le public, ont pris l'habitude de surveiller avec attention les artistes en provenance de Liverpool et ont souvent été récompensés par de belles découvertes, même si aucune n'a jamais approché le succès des Fab Four. Ainsi, en 2004, la presse s'était enthousiasmée pour le premier album du groupe Ella Guru, qui se distinguait à l'époque par une pop atmosphérique et délicate. Le groupe a disparu corps et âme après ce coup d'essai, mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, son maître d'œuvre John Canning Yates retrouve la lumière avec son premier album solo, joliment titré The Quiet Portraits, soit une dizaine de chansons somptueuses, à la fois fantomatiques et richement arrangées.
Faraway Blues de John Canning Yates, Accent d'Europe, était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. À demain.